Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. À la prière de l'Angelus dimanche 19 septembre, depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François a offert une méditation sur le service, indiquant que la grandeur et le succès aux yeux de Dieu ont une autre unité de mesure, le service. Tu veux exceller ? Sers, a notamment indiqué le pape. Nous en saurons davantage dans quelques instants avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique et l'actualité sociopolitique sur le continent. À tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niémier.
Lors de la prière de l'Angelus du dimanche 19 septembre, devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a commenté l'évangile de Saint-Marc. François est revenu sur le sens du service, un mot essentiel qui doit guider nos vies, car le service est la voie tracée par Jésus. Le compte rendu de Cyprien Viette.
Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti.
Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, explique Jésus à ses disciples qui se disputent pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Une phrase lapidaire par laquelle Jésus inaugure un bouleversement, relevé François, il renverse les critères qui marquent ce qui compte vraiment. La valeur d'une personne ne dépend plus du rôle qu'elle joue, du succès qu'elle a, du travail qu'elle accomplit ou de l'argent qu'elle a en banque. Au contraire, la grandeur et le succès aux yeux de Dieu ont une autre unité de mesure, le service. Ce mot service qui semble parfois un peu fané, abîmé, mais par l'usure, a reconnu François, l'évangile lui donne un sens concret. Servir est bien s'inscrire à la suite de Jésus, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons suivre le chemin qu'il a lui-même tracé, le chemin du service, a encore expliqué le Saint-Père. Notre fidélité au Seigneur dépend de notre volonté de servir. Il y a souvent un prix à payer, ça a le goût de la croix. Plus nous servons, plus nous ressentons la présence de Dieu, a-t-il encore souligné, surtout lorsque nous servons ceux qui n'ont rien à donner en retour, les pauvres, en embrassant leurs difficultés, leurs besoins avec une tendre compassion, nous nous sentons alors embrassés par Dieu.
Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire.
Voici avant tout qui servir, ceux qui ont besoin de recevoir et n'ont rien à donner en retour, a indiqué le pape. En accueillant les marginalisés et ceux qui sont délaissés, nous accueillons Jésus et dans un petit, dans un pauvre que nous servons, nous aussi nous recevons la tendre étreinte de Dieu. François a ainsi invité à se demander si à la suite de Jésus, nous nous intéressons à ceux qui sont les plus délaissés, invitant par ailleurs à consacrer du temps à un petit. La Vierge Marie, a-t-il conclu, peut nous aider à comprendre que servir ne nous diminue pas, mais nous fait grandir, et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Cyprien Viette. Rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique.
Africa,
ouvrons la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique par la Côte d'Ivoire, où les légionnaires de ce pays ont célébré au niveau mondial le premier centenaire d'existence de la Légion de Marie, doublé du 71e anniversaire de ce groupe de prière en Côte d'Ivoire. Le double événement a donné lieu à un grand rassemblement des légionnaires à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre dernier. L'homélie de cette messe solennelle a été prononcée par Mgr Jacques Asanvo Ayoua, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké.
C'est le cœur débordant de joie, une joie immense que nous célébrons avec tous les dévots de Marie à travers le monde, le centenaire de la Légion de Marie. Nous bénissons le Seigneur d'avoir permis à ces valeureux hommes et femmes d'initier cette puissante association de prière et d'apostolat au service de l'action évangélisatrice de l'Église à laisser entendre Mgr Jacques Asanvo Ayoua à l'entame de son homélie. L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké s'est également réjoui du dynamisme de ce mouvement à travers le monde. Reconnaissant le rôle indéniable joué par la femme dans l'Église, la société et le développement des nations, le prélat dans son élan s'est insurgé contre les pires formes d'humiliation qui les sont faites.
«
Et puis enfin, à l'endroit de tous les dévots de Marie, massés dans cette basilique noire de monde, Mgr Jacques Asanvo-Aiwa les a invités à être tous à l'école de Marie, des modèles de vertu et de foi dans notre marche à la suite du Christ en ce monde, que ce jubilé, leur a-t-il dit, consolide en nous la foi qui a animé la Vierge Marie dans sa vie tout entière consacrée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Au Tchad, il s'est tenu du 8 au 10 septembre dernier au centre Bethel de Baraka, la traditionnelle assemblée diocésaine de l'archidiocèse de N'Djamena. Cette assemblée avait pour objectif d'évaluer l'année écoulée et orienter l'année pastorale en cours. Des précisions nous ont été données par notre correspondant local.
Trois jours durant, les délégués des paroisses, vicariats, mouvements et institutions religieux, religieuses et prêtres autour de l'ordinaire du lieu Mgr Edmond Ditangar ont débattu sur les questions liées à la caritas, l'éducation catholique et les mesures financières du diocèse. Il ressort des échanges que bien des défis s'imposent aujourd'hui à l'église famille de Dieu qui est à N'Djamena. Mgr Edmond Ditangar rend tout d'abord grâce à Dieu pour cette assise avant d'insister sur un projet pastoral avec un plan de croissance.
C'est le Seigneur qui nous dira le mot de la fin et nous ne pouvons que simplement remercier pour tout ce qu'il nous a donné de vivre ici maintenant. Nous ne pouvons pas vivre dans une église où on traite les problèmes au cas par cas. Il faut avoir une vision sûre et c'est ce que nous voulons faire avec un plan pastoral, nous tracer un chemin. Nous devons avoir un plan de croissance.
Le prélat n'a pas perdu de vue la participation de l'Église catholique au dialogue inclusif prochain.
Comment nous allons participer à ce forum au niveau national? Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le dernier message de la conférence épiscopale, nous avons déjà tracé un peu notre vision de la période que nous sommes en train de traverser. Nous avons rajouté une nouveauté du dialogue inclusif et de réconciliation. Il faut qu'on aboutisse par la réconciliation.
Severin Dingatolum pour Radio Vatican.
La session sur la gestion des finances et du patrimoine de l'Église et de la retraite spirituelle du clergé de Bassa-Kounsou dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo, nous en reparlons dans cette rétrospective.
Le clergé de Bassa-Kounsou dans la province de l'Équateur est réuni ces jours-ci autour de l'évêque Mgr Joseph Mokobe au centre spirituel Nganda Ebale de Bonkita. Les prêtres participent à une session sur la gestion des finances et du patrimoine de l'Église. Des audits externes et internes seront bientôt effectués dans les structures du diocèse. Du 5 au 13 septembre, les prêtres diocésains et religieux ont participé à la retraite sacerdotale annuelle animée par M. l'abbé Jean-Pierre Nguilima sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». M. l'abbé Jean-Pierre Nguilima a expliqué que l'Église existe et vit grâce à la convergence et à la participation de tous ses enfants. Le synode des évêques, a-t-il dit, et donc cet instrument de l'Église qui favorise le vivre ensemble, le marcher ensemble, le travailler ensemble, le fêter ensemble et le souffrir ensemble. La synodalité commence dans le cœur de chacun et dans la famille. Et le prêtre qui ne vit pas en communion avec son sacerdoce ne saura pas non plus marcher avec les autres prêtres. Deux moments ont marqué la clôture de la retraite sacerdotale annuelle de Bassa-Kounsou. D'abord, la séance de correction fraternelle organisée par groupe de promotion. Ensuite, des résolutions et recommandations élaborées et qui ont été approuvées par l'évêque. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Le petit séminaire Saint-Paul de Guider dans l'archidiocèse de Garoua a célébré l'excellence scolaire. L'événement s'est déroulé dimanche 12 septembre dernier en la chapelle du petit séminaire en présence de l'archevêque de Garoua, Mgr Faustin Ambas Ndjodo et des autorités administratives de la ville de Guider ainsi que du Mayo-Louti à l'extrême nord Cameroun.
Le petit séminaire Saint-Paul de Guider a eu un taux de réussite de 100% aux examens officiels de l'année académique 2020-2021. Depuis sa création en 1986 par le cardinal Christian Toumi, d'heureuse mémoire, cette pépinière des vocations sacerdotales s'est toujours positionnée comme pôle de référence en matière d'éducation dans toute la partie nord Cameroun. C'est pourquoi l'archevêque de Garoua, Mgr Faustin Ambassa, est allé sur les lieux pour encourager les élèves, les enseignants et les formateurs. L'abbé Alexandre Aman est le recteur du petit séminaire Saint-Paul de Guider.
Ces résultats sont les fruits palpables d'un accompagnement strict. D'abord par l'archevêque de Garoua lui-même, qui est très attentif à la bonne marche de cette illustre institution. Ensuite, par monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires du Maïlouti, et enfin, par les formateurs du petit séminaire.
La devise du petit séminaire Saint-Paul de Guidère est « Charité, science et discipline ». Cette année, les séminaristes sont au nombre de 109. Ils ont promis de participer généreusement à leur formation humaine intégrale tout au long de l'année scolaire 2021-2022. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, la rencontre des journalistes et communicateurs catholiques, membres de l'Union catholique africaine de la presse de l'Afrique de l'Ouest, s'est refermée dimanche par une messe célébrée en la cathédrale de Bobo-Dioulasso.
La cathédrale de Bobo-Dioulasso a abrité le dernier acte majeur de la rencontre des journalistes et communicateurs avec la messe de ce 24e dimanche du temps ordinaire qui a présidé l'ordinaire du lieu, Mgr Paul Ouédraogo. Entre cet acte ultime et l'ouverture de la rencontre effectuée le jeudi 9 septembre dernier par le ministre de la Communication, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Dr Ousseni Tamboura, les journalistes et communicateurs ont eu le temps de réfléchir avec l'aide d'éminents panélistes sur des thèmes variés tels médiatiser sans promouvoir l'insécurité, rôle et devoir des journalistes et des médias, action de solidarité en faveur des personnes déplacées internes, état des lieux et perspectives, des médias traditionnels aux médias sociaux, quelles attitudes en période de crise sécuritaire, traitement de l'information sur les attaques terroristes, état des lieux des relations armées médias. Et pour joindre l'utile à l'agréable, plus de 60 journalistes et communicateurs ont fait une excursion au mausolée de Tiefo Amoro dans le village historique de Numundara à 25 km de Bobo-Dioulasso. Venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, journalistes et communicateurs ont fait un partage d'expériences et mis en place un bureau ouest-africain de l'Union catholique africaine de la presse. Paul Da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un groupe de rebelles a revendiqué une attaque menée dans la nuit de samedi à dimanche contre l'aéroport international de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, sans faire de dégâts. Des tirs de mortier entendus jusqu'au centre-ville ont eu lieu la veille du départ du président Évariste Ndayishimiye pour New York, où se tient la semaine prochaine l'Assemblée générale de l'ONU. Le gouvernement sud-africain s'est dit dimanche perplexe de se voir toujours figurer sur la liste rouge de la Grande-Bretagne, imposant des restrictions Street pour l'entrée sur son territoire aux ressortissants de pays particulièrement touchés par la COVID. Le gouvernement sud-africain est perplexe face à la décision du Royaume-Uni de maintenir l'Afrique du Sud sur la liste rouge des pays soumis à des restrictions strictes et à des coûts élevés pour entrer au Royaume-Uni, a regretté le ministère des Affaires étrangères sud-africain dans un communiqué. La junte en Guinée a affirmé son autorité samedi presque deux semaines après le putsch, repoussant pour le moment les demandes de libération de l'ex-président Alpha Condé et les exigences d'élection dans les six mois au nom de la volonté du peuple. La junte a affirmé que l'ex-président Alpha Condé détenu depuis le putsch du 5 septembre, dont la communauté internationale réclame la libération, resterait dans son pays. Cette mise au point dans un communiqué lu vendredi soir sur la télévision publique est intervenue peu après le départ d'une mission de deux chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a insisté sur son exigence d'une libération de M. Condé. Par ailleurs, au cri de « Liberté, liberté », quatre figures de la mobilisation contre un troisième mandat du président guinéen déchu Alpha Condé ont été accueillis triomphalement à leur retour d'exil samedi à l'aéroport de Conakry. Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux pro-islamistes, ont manifesté samedi à Tunis contre le coup de force du président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, scandant des slogans pour un retour à la légitimité du pouvoir. Répondant à un appel publié sur les réseaux sociaux, les manifestants se sont rassemblés sur l'avenue Habib Bourguiba, qui traverse le cœur de la capitale tunisienne, encerclée par un important dispositif sécuritaire.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré samedi profondément inquiet de la crise politique en Somalie entre le président et son premier ministre, appelant dans une déclaration adoptée à l'unanimité de ses membres au dialogue et à des élections crédibles et inclusives. La suite de notre programme, c'est avec le père jésuite Martin Barthi qui continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entamons le quatrième chapitre de notre lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Ce chapitre est intitulé « La meilleure politique ». Il comprend cinq grands points, à savoir populisme et libéralisme, 2. Le pouvoir international, 3. Une charité sociale et politique, 4. L'activité de l'amour politique, 5. Plus de fécondité que des succès. Dès le départ de ce chapitre, le pape écrit « Une meilleure politique ». Mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir de peuples et de nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Parlant du premier point, populisme et libéralisme, le pape écrit, je cite, le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leur fin, ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les faibles et qui respecte les différentes cultures. Selon le pape, au cours des dernières années, le terme « populisme » ou « populiste » a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée, à telle enseigne qu'on prétend classer toutes les personnes, les groupes, les sociétés et les gouvernements à partir d'une division binaire, populiste ou non populiste. Et le pape d'observer qu'il n'est plus possible qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaie de la classer dans l'un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l'exalter à l'excès. Selon l'encyclique, la prétention d'établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse. Elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple. Le pape continue en montrant que même si on veut affirmer que la société est plus que la simple somme des individus, on a besoin du vocable peuple. La réalité, c'est qu'il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu'il existe des méga-tendances et des prospections communautaires. On peut également penser aux objectifs communs, au-delà des différences, pour façonner un projet commun. Enfin, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif. Tout cela est exprimé par le substantif « peuple » et par l'adjectif « populaire ». L'encyclique affirme ainsi que s'il n'était pas pris en compte avec une critique solide de la démagogie, on laisserait de côté un aspect fondamental de la réalité sociale.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-Josée Moindo-Boisboileau pour le magazine du jour consacré à la femme.
Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société nous conduit en Tanzanie. La première femme présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a nommé une femme, Stergomena Tax, au poste de ministre de la Défense. C'est la dernière en date d'un certain nombre de nominations de femmes à des postes gouvernementaux de premier plan. Cette nomination fait partie du deuxième remaniement ministériel auquel Hassan a procédé depuis le décès de son prédécesseur John Magufuli au début de l'année. J'ai décidé de briser le mythe de longue date selon lequel au ministère de la Défense il doit y avoir un homme avec des muscles. Le travail du ministre n'est pas de porter des fusils ou de l'artillerie, a déclaré Madame Hassan. Les militants pour l'égalité des sexes ont salué cette nomination tout en affirmant que la Tanzanie a besoin d'aller encore plus loin pour combler le fossé en la matière. Nous avons vraiment besoin de voir de nouveaux visages à ces postes lorsque vous voyez les mêmes personnes recyclées tous les jours. Cela donne l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement bons à ce travail qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent l'être, a déclaré Aika Peters, qui milite pour les droits humains. La nomination de Madame Tax porte à 8 le nombre de femmes qui occupent des postes ministériels dans le gouvernement de la présidente Hassan. Stergomena Lawrence Tax est née le 6 juillet 1960. Elle a été secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Madame Tax a fait ses études dans plusieurs écoles primaires de Tanzanie et à l'école secondaire Lake à Mwanza où a également étudié l'ancien président tanzanien John Magufuli. Elle a obtenu son baccalauréat en commerce et finance à l'université de Dar es Salaam en 1991. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en philosophie et gestion des politiques et en économie du développement et un doctorat en philosophie en développement international de l'université de Tsukuba au Japon. Elle a été secrétaire permanente au ministère de la coopération est-africaine de 2008 à 2013, lorsqu'elle a été nommée secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l'Afrique australe lors du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Lilongwe au Malawi.
Poursuivons notre édition avec la revue de la presse catholique africaine, Donatien Nyembo.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de la revue des presses catholiques africaines. À la une de la Croix Africa vendredi 27 septembre dernier, Guinée, le cardinal Sarah s'exprime après le coup d'État du 5 septembre. Le cardinal Sarah rappelle à la junte militaire au pouvoir en Guinée ses responsabilités et lui prodigue des conseils quelques jours après le coup d'État qui a provoqué la chute d'Alpha Condé le 5 septembre, écrit la Croix Africa. La lettre de 4 pages signée par l'ancien préfet de la Congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements date du 13 septembre. Le cardinal Sarah, archevêque de Conakry des 1979 à 2001, y rappelle l'histoire récente du pays. Celle-ci est marquée par des coups d'État qui ont suscité des espoirs vite déçus par des régimes successifs. Aux yeux du cardinal Sarah, précise le journal africain, une nouvelle génération de responsables politiques mus par la volonté de promouvoir la paix et la concorde est nécessaire pour un meilleur avenir de la Guinée. Les évêques catholiques de Zambie à travers le secrétariat ont lancé la saison de création 2021 avec un appel à se soucier davantage de l'environnement. C'est ce qu'affichait le portail de l'AMECEA ce vendredi 17 septembre 2021. S'exprimant dans son homélie lors de la messe pour lancer cette saison de création, le père Gabriel Mapulanga a appelé la société à prendre soin de l'environnement et des autres. Le père Mapulanga poursuit l'AMECEA à noter qu'en raison de la négligence de l'importance des soins pour la maison commune par l'humanité, il y a eu des conséquences désastreuses telles que la sécheresse, les inondations dues au changement climatique. Après le lancement de la saison 2021 de la création, le personnel du secrétariat catholique a planté des arbres fruitiers au presbytère pour les prêtres travaillant au secrétariat catholique, écrit en conclusion la MECEA.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et voilà, amis auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.